Alors bon, bah bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette troisième séance du séminaire Flaubert consacré au thème de la famille. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Lucie Nizard, qui est ancienne élève de l'ENS Lyon, docteur en littérature française. Elle a soutenu une thèse en 2021 intitulée Poétique du désir féminin dans le roman de mœurs français du second 19e siècle 1857-1914. C'est une thèse qui a reçu le prix des thèses de la Sorbonne Nouvelle et qui devrait être publiée très prochainement. Ses travaux portent principalement sur la question de la représentation de l'érotique féminine dans le roman du 19e siècle, représentation des femmes en tant que sujet et non seulement objet du désir, représentation du désir et du plaisir féminin, mais aussi de leur éventuelle répression ou des violences sexistes et sexuelles dont les femmes sont victimes. Elle est membre du projet ANR Consent qui vise à élaborer une approche théorique et interdisciplinaire de la notion de consentement. Elle co-dirige cette année avec Céline Duverne, Jacques-David Eby et José-Louis Diaz le séminaire Balzac du GIRB consacré au thème de Balzac et la question femme, séminaire qui doit se clôturer par une journée d'études à la maison Balzac sur le même thème le 16 juin prochain. Et la communication qu'elle va nous présenter aujourd'hui s'intitule Ce serait un garçon, bien sûr, représentation de la grossesse et des nourrissons dans l'œuvre de Flaubert.
Merci beaucoup Juliette Azoulay et merci à toute l'équipe du séminaire Flaubert, à Florence Pellegrini aussi, de me faire l'honneur et puis le grand plaisir de m'inviter à parler aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran. Voilà, vous le voyez à nouveau.
Parfait.
Très bien, merci. Je me suis chronométrée ce matin et j'en ai pour 1 heure normalement, un tout petit peu moins d'une heure.
Très bien.
Allons-y. Je commence par te dévorer de baisers dans la joie qui me transporte. Ta lettre de ce matin m'a enlevé de dessus le cœur un terrible poids. Il était temps. Hier, je n'ai pu travailler de toute la journée. À chaque moment que je faisais, ceci est textuel, la cervelle me sautait dans le crâne. Et j'ai été obligée de me coucher à 11 heures. J'avais la fièvre et un accablement général. Voici 3 semaines que je souffrais horriblement d'appréhension. Je ne dépensais pas à toi d'une minute, mais d'une façon peu agréable. Ah oui, cette idée me torturait. J'en ai eu des chandelles devant les yeux 2 ou 3 fois, jeudi entre autres. Il faudrait tout un livre pour développer d'une manière compréhensible mon sentiment à cet égard. L'idée de donner le jour à quelqu'un me fait horreur. Je me maudirais si j'étais père. Un fils de moi, non, 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 que toute ma chair périsse et que je ne transmette à personne l'embêtement et les ignominies de l'existence. Vous aurez reconnu la lettre écrite par Flaubert à Louise Colet le 11 décembre 1852. C'est donc un merveilleux cadeau d'anniversaire pour Flaubert que d'apprendre l'arrivée tant attendue des règles de sa maîtresse et donc la disparition d'un éventuel futur nourrisson dont l'idée le terrifiait. Flaubert ne s'est pourtant pas privé de concevoir fictivement un grand nombre de femmes enceintes et d'enfants au maillot. Alors comment Flaubert représente-t-il l'état de grossesse et la toute petite enfance, lui qui les considère personnellement avec une telle angoisse? Comment récupère-t-il ce motif familial, ressort topique du roman bourgeois, d'ailleurs Stéphanie d'Orcroulet qui est là, qui a un très bel article là-dessus. On verra ici qu'il s'empare des représentations de la grossesse et des nourrissons comme de toutes les idées reçues, avec ironie, distance, ambiguïté, ambivalence et beaucoup de drôlerie. Mais résolvons d'abord quelques questions de lexique. Que signifie enceinte pour Flaubert? Une brève recherche numérique m'a signifié que le terme revenait à 16 reprises dans Salammbô, où il désigne très massivement, à ma grande déception, l'espace qui délimite et qui défend la ville. Mais on se souvient bien sûr du Madame Bovary était enceinte, qui clôt la première partie du roman, et du dramatique Je suis enceinte de Rose Annette face à un Frédéric menaçant. La grossesse elle-même est cependant peu décrite dans les romans flaubertiens. Flaubert s'empare en cela d'un imaginaire d'époque qui est construit autour du corps caché, Pour reprendre une expression de l'historienne Anne Marisson, on dissimule la grossesse et l'accouchement, préférant faire apporter les bébés par des cigognes ou bien les trouver dans les choux ou dans les roses. La grossesse, signe visible d'une sexualité active, doit se soustraire au regard comme une honte. Zola le déplore hein, dans Au bonheur des dames, où les vendeuses enceintes sont renvoyées. Il nous dit « La maternité était supprimée comme encombrante et indécente ». La répugnance vis-à-vis de la femme enceinte est d'autant plus présente que beaucoup de grossesses sont bien sûr encore non désirées et potentiellement dangereuses. Si l'on en croit les chiffres de Edward Shorter, le risque de mourir en couche s'élève, alors au début du siècle, hein, et dans le temps d'une vie de femme entière, donc avec plusieurs grossesses, le risque de mourir en couche s'élèverait à 8%. Ces conceptions négatives de la grossesse font contraste avec un culte croissant de la maternité. La sanctification de la Vierge Mère qui résout la porie est couronnée par la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception en 1854. Alors, qu'en est-il du fruit de ces entrailles? Pour le désigner, le terme tendre de bébé, issu de l'anglais baby, commence à se répandre. Si Balzac le place dès le début des années 40 sous la plume de René de l'Estorade, personnage de mère très aimante dans les mémoires des deux jeunes mariés sur lesquels nous allons revenir, Flaubert ne privilégie pas ce vocable affectueux. Il préfère ceux plus neutres de nouveau-né ou de nourrisson. Le grand dictionnaire Larousse du 19e siècle définit ainsi le terme de nourrisson, hein, qu'on va employer majoritairement, enfant que l'on allaite, qui est à la mamelle, et qui excède donc les 28 jours du nouveau-né. Ce très petit enfant, pendu au sein maternel chez les personnages les plus populaires, est envoyé en nourrice par les mères bourgeoises ou par celles qui aspirent à l'être. Il offre ainsi la possibilité d'une scène de genre où il est davantage un objet du décor, alors objet certes parfois salissant, davantage un objet qu'un petit sujet qui échangerait regard et sourire avec sa mère, comme le fait par exemple le bébé de Clotilde dans l'ultime chapitre du docteur Pascal de Zola. Donc, comment le texte flaubertien sape-t-il la Madone au petit Jésus emmailloté dans les préjugés de la bourgeoisie? Comment détruit-il l'image d'Épinal de monsieur, madame et bébé? Et l'assert-il enfin la layette? On s'intéressera dans une première partie à l'impossible représentation de la grossesse, état éminemment ambivalent entre nature et culture, entre grossesse et pathétique, réalité crue, pétrie des fantasmes parentaux qui vêtent le fœtus d'un avenir taillé dans leurs propres rêves déçus. Et puis, dans une seconde, donc dernière partie, hein, on n'en aura que deux, on verra comment le texte flaubertien s'y prend pour faire disparaître les nourrissons, en contraste avec de nombreux textes de leur époque qui mettent en jeu une idéologie nataliste et familialiste. Donc, d'abord... Alors, je vais arriver à passer... Ah, voilà. Voilà. D'abord... l'impossible représentation de la grossesse. Voilà. Est-ce que les vignettes qui apparaissent sur mon écran vous cachent aussi le PowerPoint ou vous voyez que le PowerPoint? Vous ne vous voyez pas sur l'image?
Vous voyez non, bien seulement
le PowerPoint? Non, on voit bien le PowerPoint.
On voit bien le PowerPoint, ouais.
Ouais, très bien, merci beaucoup. Alors, précisons tout d'abord que l'enfant à naître n'existe chez Flaubert que dans les rêves parentaux. Gardons-nous bien sûr de l'anachronisme, en l'absence notamment d'échographie, il est bien entendu très difficile de se représenter la vie in utero. Mais certains des contemporains de Flaubert, comme Zola, dans Fécondité par exemple, décrivent les sensations de la femme enceinte et son lien physique et affectif au fœtus qui l'habite. Flaubert, lui, ironise dans son dictionnaire des idées reçues à l'article « fœtus » défini comme « toute pièce anatomique conservée dans de l'esprit divin ». C'est en effet via une obstétrique farcesque que notre fils de chirurgien, fervent lecteur de littérature médicale, représente le plus frontalement l'état de grossesse et son produit. Donc d'abord, le détour par l'obstétrique, Dans son très beau livre intitulé « Enceinte, une histoire de la grossesse entre art et société », livre très joliment illustré où j'ai puisé une partie des illustrations de ce PowerPoint, l'historienne Emmanuelle Berthiaud explique qu'au XIXe siècle, en dehors des caricatures, ce sont essentiellement les images médicales qui représentent frontalement le corps des femmes enceintes. On retrouve cet intérêt anatomique sur un mode encyclopédo-farcesque qui se préserve de toute volonté psychologique dans Bouvard et Pécuchet, enfin chez Bouvard et Pécuchet. Donc ils prirent en note dans le dictionnaire des sciences médicales, un petit clin d'œil de Flaubert lui-même sûrement, les exemples d'accouchement, de longévité, d'obésité et de constipation extraordinaire. Donc, dans cette énumération, l'accouchement est présenté comme une curiosité physiologique parmi d'autres. Et un peu plus loin, Pécuchet suggère d'informer sa connaissance en obstétrique par une expérience pratique. Si nous travaillons les accouchements avec un de ces mannequins, assez de mannequins, ce sont des demi-corps en peau inventés pour les élèves sages-femmes. Il me semble que je retournerai le fœtus. Mais Bouvard était là de la médecine. Donc Bouvard est là de la médecine et Flaubert de l'accouchement. Et donc la manœuvre fictive de retournement d'un bébé en siège est heureusement avortée et le lecteur est renseigné sur l'évolution de l'obstétrique au cours du second 19e siècle, mais privé de cette d'une représentation de l'accouchement autre que sur le mode de la projection imaginaire et mégalomane des deux compères. Un autre mode de représentation de la femme qui donne la vie, là encore sur un mode ironique, se retrouve dans Bouvard et Pécuchet. Il s'agit du détour par l'iconographie religieuse, donc Marie enceinte, Maria gravida, donc où Marie, vierge bénie entre toutes les femmes, mère choisie entre toutes les mères, resplendit dans la gloire d'une maternité sans souillure. Bouvard, dans un fauteuil à ses côtés, lui prit son eucologe et s'arrêta aux litanies de la Vierge. Il la rêva comme on la figure dans les tableaux d'église, sur un amoncellement de nuages, des chérubins à ses pieds, l'enfant Dieu à sa poitrine. Mère des tendresses que réclament toutes les afflictions de la terre, idéal de la femme transportée dans le ciel, car sortie de ses entrailles, l'homme exalte son amour et n'aspire qu'à reposer sur son cœur. On retrouve la trace de ce culte marial, extrêmement répandu hein, du temps de Flaubert, dans la légende de Saint-Julien l'Hospitalier. La mère de Julien, dont la queue de la robe qui traîne de trois pas derrière elle, insoulevable comme la robe de Marie Arnoux, la protège du contact physique, donc cette mère de Saint-Julien connaît un enfantement miraculeux qui permet une ellipse de sa grossesse. À force de prier Dieu, il lui vint un fils. Donc voilà une référence ironique aux représentations de Notre-Dame dite de l'attente, de l'espérance, de l'avant, qui conçoit dans le seul lien avec le divin. Et ce motif de la conception par intervention divine décorporalisée se retrouve sur un mode païen dans la tentation de Saint-Antoine, où Isis, mère d'Harpocrate, déclare « Osiris, cependant, revenait me voir quelquefois, son ombre m'a rendue mère d'Harpocrate. » Donc cette mère de mystère, plus ou moins épargnée par le coït, est couronnée d'une majuscule qui dit sa sacralité. Cependant, il distingue de l'autre côté du Nil une femme, donc avec une majuscule à l'article et au nom, debout au milieu du désert, elle garde dans sa main le bas d'un long voile noir qui lui cache la figure, tout en portant sur le bras gauche un petit enfant qu'elle allait. À son côté, un grand singe est accroupi sur le sable. Le grand singe accroupi auprès d'Isis, c'est probablement Thoth, le dieu égyptien de la sagesse, qui prend l'aspect d'un babouin dans la mythologie égyptienne et qui l'aide à ressusciter son époux pour qu'elle conçoive Horus, désigné sous le nom d'Harpocrate dans son enfance. C'est donc un enfantement magique sous les auspices du dieu de la sagesse que Flaubert représente ici de manière voilée, mystique. Mais comment peint-il en réaliste la grossesse des femmes de son temps? Alors c'est notre deuxième point, l'imaginaire de la grossesse cachée. Donc Emmanuelle Berthiaud explique dans son ouvrage Enceinte que du XVIe au XIXe siècle règne l'ère de la grossesse cachée. On est alors encore très loin de la fière exhibition du ventre qui s'est imposée en Occident depuis les années 60. Les imaginaires du second 19e siècle associent la grossesse à l'animalité. On en trouve une trace dans cette énumération qui figure dans Hérodias. Je crierai comme un ours, comme un âne sauvage, comme une femme qui enfante. Donc il semble y avoir une sorte de gradation vers la bestialité. Et cette association de la femme enceinte à l'animalité n'est pas propre à Flaubert. Elle est très récurrente chez Zola, qui fait souhaiter dans la terre, par exemple, à son personnage de Lise, donc un personnage de paysanne, propriétaire d'une belle vache qui s'appelle la Coliche. Lise dit donc « pourvu que la Coliche ne vèle pas en même temps que moi ». La grossesse, donc, c'est aussi, ça je le disais tout à l'heure, une forme de manifestation d'impudeur. Elle reste taboue dans les arts nobles, peu représentée en portrait, hein, ça c'est encore Emmanuel Berthiaud qui nous l'apprend. Et de fait, chez Flaubert, on ne voit pas le ventre des héroïnes. J'ai mis en illustration un tableau où on remarque l'habillement lâche des femmes enceintes qui vise à dissimuler au maximum par le vêtement ce ventre. Donc on se souvient chez Flaubert du remarquable changement de sujet à la fin de la première partie de Madame Bovary. Quand on partit de Tostes au mois de mars, Madame Bovary était enceinte. Deuxième partie, Yonville-l'Abbaye, ainsi nommée à cause d'une ancienne abbaye de Capucins dont les ruines n'existent même plus, est un bourg à 8 lieues de Rouen. Donc plutôt que d'Emma enceinte, on a la description de Yonville. Et si l'on en croit la chronologie établie par Bismuth, on serait en mars 41 à l'arrivée à Yonville, donc Emma serait enceinte d'à peu près 6 mois. Et pourtant, il n'en est pas fait mention lors de la longue scène de flirt avec Léon. La grossesse d'Emma disparaît jusqu'au 3e chapitre de la partie où c'est Charles qui la convoque à nouveau. Mais le regard de Charles sur le corps de sa femme enceinte subit un brouillage. Flaubert effectue un travail stylistique d'euphémisation de la grossesse d'Emma par rapport au brouillon. Le texte final ne conserve que sa démarche paresseuse et sa taille qui tourne mollement sur ses hanches sans corset. Flaubert a effacé du brouillon la mention qu'il avait écrite d'abord de sa taille plus ronde chaque jour. Il a supprimé l'image trop directe du ventre qui s'arrondit pour ne conserver que le sémantisme de la rondeur, ou plutôt de la ronde, obliquement, dans le verbe tourner. Et donc, c'est un détail d'habillement, les hanches sans corset, qui marque la modification corporelle. Alors, il existe à l'époque de Flaubert des corsets pour femmes enceintes qui compriment le ventre à l'avant et permettent au bébé de se disposer plutôt sur le côté, sur les hanches de la mère. Mais visiblement, Emma ne possède pas cet article qui n'est peut-être pas parvenu à Yonville. Et la description de la grossesse passe bien souvent par la mention du vêtement, celui de la mère ici, mais également celui en préparation du nourrisson. En utilisant pour figurer la grossesse la métonymie de la préparation de la layette, Flaubert détourne un cliché de son temps. Emmanuel Berthiaud souligne au sujet de l'art pictural que il est avare en représentation de la grossesse, mais figure plus volontiers la préparation de la layette. Le développement de l'industrie textile au 19e permet aux futures mères de la petite bourgeoisie d'acheter de la layette toute faite et ensuite de la broder elle-même dans une sorte de rituel initiatique qui serait une première étape dans l'accueil de l'enfant. Alors Flaubert distord ce stéréotype. Emma ne vit ce passage que sur le mode de la négation, hein, dans un extrait où les marques de la négation sont extrêmement récurrentes. Emma sentit d'abord un grand étonnement, puis eut envie d'être délivrée. Donc on remarque qu'elle aussi semble vouloir ellipser la grossesse. Donc être délivrée pour savoir quelle chose c'était que d'être mère, ce fameux statut mythifié. Mais ne pouvant faire les dépenses qu'elle voulait, avoir un berceau en nacelle avec des rideaux de soie rose et des béguins brodés, elle renonça au trousseau dans un accès d'amertume et le commanda d'un seul coup à une ouvrière du village sans rien choisir ni discuter. Elle ne s'amusa donc pas à ces préparatifs où la tendresse des mères se met en appétit et son affection, dès l'origine, en fut peut-être atténuée de quelque chose. La représentation de la préparation de la layette, qui s'impose dans l'iconographie familialiste comme une nouvelle occasion de célébrer les valeurs familiales, selon encore une formule empruntée à Berthiaud, est mise à mal par Flaubert. Le rite d'initiation à la maternité est négligé par Emma, donc faute de pouvoir acquérir de luxueuses dentelles, pour vêtir, mais ça veut dire aussi choyer et humaniser le petit être vagissant qui va sortir d'elle. Florence Emtaz l'avait très bien démontré, l'enfant à venir est d'abord source pour les mères flaubertiennes de préoccupations financières. Et d'ailleurs, Rosanette Engrosset prétend s'embourgeoiser, interprétant sur un mode socio-économique la fameuse prédiction de Saint-Paul, la femme sera sauvée en devenant mère. Ça nous amène à notre troisième point, la grossesse entre grotesque et pathétique. Donc la littérature moderne est gênée par la grossesse. Elle oscille entre des représentations comiques reposant sur des allusions grivoises et un usage pathétique. On trouve déjà cette ambivalence, entre autres, je suis tombée dessus par hasard, dans les lettres écrites en 1671 par Madame de Sévigné à sa fille Madame de Grignan, enceinte pour la troisième fois après notamment une première fausse couche qui accentue les précautions. La grossesse sous la plume de Sévigné devient malheur, maladie, ce sont ses mots. La mère imagine que sa fille ne cesse de rendre sa gorge, c'est-à-dire d'avoir des vomissements spectaculaires, et elle va jusqu'à l'inciter à ne pas répondre à ses lettres, donc on sait le sacrifice que cela représente pour Madame de Sévigné, de peur qu'elle ne se fatigue, attendant la délivrance dans un paroxysme d'anxiété. Mais cette rhétorique morbide, voire funèbre, alterne sans cesse avec des moqueries lestes, son libertinage de plumes, des descriptions comiques de la sage-femme, Madame Robinet, qu'elle appelle ta robinette, à des gronderies envers Monsieur de Grignan, donc l'auteur de ces mots, que la mère enjoint à ne pas trop caresser sa fille. Le texte flaubertien présente également un traitement très ambivalent de la grossesse, tiraillé donc entre le grotesque et un pathétique ambigu. Donc le grotesque d'abord, précisons qu'on ne trouve pas de traces dans l'éducation sentimentale du ventre de Rosanette, pourtant enceinte d'après Pierre-Marc de Biasi, de juillet-août 48 à juin-juillet 50, soit 24 mois, donc il va être quand même assez proéminent. La scène la plus marquante parmi toutes celles où figure Rosanette enceinte, c'est probablement celle de l'aveu à Frédéric, qui repose sur un jeu d'opposition et de surprise. Donc, cet aveu démarre par une dispute. « Ah, tu nous ennuies avec tes anciennes !» Donc, on commence sur le registre familier de Poissarde. « Misérable !» Il leva le poing. « Ne me tue pas !» Je suis enceinte. Donc là, on note le contraste avec le registre de la réplique précédente et le ton mélodramatique. Frédéric se recula. On aurait plutôt imaginé un rapprochement. Tu mens. Mais regarde-moi. Donc ça, c'est la seule allusion à une grossesse visible. On s'attendrait dans notre paradigme contemporain à un regard sur le ventre. Mais elle prit un flambeau montrant son visage. De petites taches jaunes maculaient sa peau, qui était singulièrement bouffie. Donc là, on a un détail médical inattendu, celui du masque de grossesse, donc détail qui apparaît sûrement dans l'esprit d'un contemporain de Flaubert comme une laideur. C'est un détail grotesque, c'est le bouffon du bouffi. Hein. Frédéric ne nia pas l'évidence. Il alla ouvrir la fenêtre, fit quelques pas de long en large, puis s'affaissa dans un fauteuil. Cet événement était une calamité qui d'abord ajournerait leur rupture et puis bouleverserait tous ses projets. L'idée d'être père, d'ailleurs, lui paraissait grotesque, hein, le mot y est, inadmissible. Donc, il y a bien sûr probablement une dimension autobiographique dans l'effroi de Frédéric face à la grossesse de sa maîtresse. La dernière phrase rappelle la lettre avec laquelle nous avons ouvert cette communication, hein, l'idée de donner le jour à quelqu'un me fait horreur. Mais Flaubert réécrit en même temps un leitmotiv de son temps. Le caractère grotesque de la femme enceinte, en particulier dans le rôle de maîtresse, revient sous la plume de nombreux auteurs du second 19e. à l'instar de Léon et Nick, qui fait dire à son héros Ventujol, l'un des personnages de l'accident de Monsieur Hébert, « Je suis l'amant d'une femme enceinte », et cette idée lui suggérait une foule de sous-entendus où le grotesque coudoyait l'absurde. Puis, il y a aussi dans l'Assommoir la grossesse de Madame Gaudron qui suscite à plusieurs reprises une franche hilarité, notamment durant une promenade jusqu'à la colonne Vendôme, assortie de plaisanteries sur la dimension phallique de la colonne, et l'on riait de ce ventre de femme enceinte avec une gaieté formidable qui secouait la colonne. Mais la grossesse suscite également, chez Flaubert, donc, deux sortes de pathétiques différentes l'une de l'autre, toutes deux très ambivalentes. Flaubert récupère le surplus de pathos attribué à une femme enceinte pour pointer un cliché courant. Le procédé est saillant dans cet extrait de Beauvoir et Pécuchet, où Pécuchet raconte à un abbé les supplices hyperboliques de femmes enceintes dans les guerres de religion. « Moi, monsieur, je vous raconte de l'histoire. Les catholiques en Irlande éventrèrent des femmes enceintes pour prendre leurs enfants. Jamais. Et les donner aux pourceaux. Allons donc. En Belgique, ils les enterraient toutes vives. Quelle plaisanterie !» Donc le lecteur, comme l'abbé, est frappé par l'excès de gore, qui tient peut-être à un plaisir sadique de Pécuchet, et puis à une parodie de rhétorique propagandiste. Dans Salambo, le massacre d'une parturiente participe d'un décor de l'horreur guerrière. Cette fois, me semble-t-il, l'image est choisie véritablement pour sa force de choc. Les trois grandes catapultes, malgré tous ces travaux, ne s'arrêtaient pas. Leur ravage était extraordinaire. Ainsi, la tête d'un homme alla rebondir sur le front des Sissites, dans la rue de Kinisdo. Une femme qui accouchait fut écrasée par un bloc de marbre et son enfant avec le lit, emporté jusqu'au carrefour de Sinazine, où l'on retrouva la couverture. On songe, face à cette parturiente martyre de la barbarie martiale, aux images du bombardement de la maternité de Marioupol, qui ont fait le tour du monde à partir du 9 mars dernier, l'accouchement pulvérisé par la guerre, symbolisant, dans l'esprit collectif, comme chez Flaubert, un sommet de violence. La grossesse est aussi mise au service d'un autre type de pathos, beaucoup moins spectaculaire, qui cohabite avec le grotesque. Il concerne massivement Rosanette, dont l'affection pour Frédéric et la joie d'attendre un enfant de lui contrastent avec l'indifférence violente du futur père, qui ne laisse pas de remarquer lui-même cette dissonance pathétique. En la voyant si heureuse, une pitié le prit. Lorsque la jeune femme se prostitue enceinte pour ne pas demander d'argent à l'homme qu'elle aime, le comique obscène du défilé des clients coexiste avec, je crois, une forme de valorisation de la fille dont le sacrifice comporte une part de noblesse. Cette future mère, en relative opposition avec la figure de la mère bourgeoise, a sa manière à elle d'acheter de la layette. Le tableau contraste bien sûr violemment avec les représentations traditionnelles de la famille, au bénéfice peut-être de la courtisane, malgré le grotesque de la situation. On reconnaît le goût flaubertien pour l'ambiguïté, son refus des valeurs trop solidement établies. La liaison intéressée entretenue par Frédéric avec Madame d'Ambreuse tout au long de la grossesse de Rosanette établit un diptyque entre les comportements des deux futurs parents qui s'inscrivent finalement tous deux sur un continuum de la prostitution cachée, mais le narrateur semble prendre le parti de la jeune femme, au cœur plus pur que son corps. Ses jolis yeux humides pétillaient d'une passion tellement puissante que Frédéric l'attira sur ses genoux et il se dit « Quelle canaille je fais !» en s'applaudissant de sa perversité. Donc Rosanette s'aveugle dans des rêves d'amour guimauve. Frédéric songe à sa réussite sociale. Chez les Bovary, les aspirations dichotomiques du couple parental répondent à une symétrie inverse. Mais malgré les grandes divergences des représentations de la grossesse dans chacun des couples flaubertiens, Flaubert met au jour des sortes de constantes genrées dans la perception de la grossesse. C'est notre dernier point sur la grossesse. Donc si les grossesses dans l'œuvre flaubertienne sont très différentes les unes des autres, Flaubert me semble s'être intéressé bien avant les études de genre bien avant que les études de genre ne le théorisent, à l'importance du biais de genre dans le regard parental sur la grossesse. L'ermite de Croisset, dont la sœur Caroline est morte des suites de ses couches, a su montrer d'abord l'état d'angoisse diffus dans lequel peut se vivre une grossesse. Il mentionne comme en passant la grossesse cernée par le deuil brutal et les ennuis financiers de Madame Moreau, et puis il revient à de nombreuses reprises sur la tristesse et l'anxiété de Rosanette, attribuable au manque d'argent, à l'abandon de Frédéric, et dont elle ne s'aperçoit pas vraiment, et peut-être aussi à l'appréhension d'un enfantement dans la douleur et dans la peur que suscite cet événement. On entend ou circule encore le proverbe « femme grosse a un pied dans la fosse ». À l'exception de Frédéric, les futurs pères semblent vivre au contraire leur grossesse, plutôt la grossesse de leur femme, comme un moment de bonheur. C'est le cas du père Rouault qui lui consacre de nostalgiques rêveries rétrospectives. Il se rappela ses noces, son temps d'autrefois, la première grossesse de sa femme. Il était bien joyeux. Pour Charles, la joie se mêle à la fierté. Son bonheur ne se tenait plus. Il se levait, il l'embrassait, passait ses mains sur sa figure, l'appelait petite maman, voulait la faire danser et débitait, moitié riant, moitié pleurant, toutes sortes de plaisanteries caressantes qui lui venaient à l'esprit. L'idée d'avoir engendré le délectait. Rien ne lui manquait à présent. Lors de la précédente séance de ce séminaire, Delphine Jaillot, vous avez très justement trouvé la formule pour qualifier Charles de père à l'enfant, remarquant que Flaubert inverse les idées reçues associées au rôle traditionnel. Alors oui, père à l'enfant, mais peut-être pas pour autant femme enceinte, hein, pas encore homme enceint, puisqu'il y a dans son orgueil une forme de brevet de virilité qui était explicité dans les brouillons, hein, où on lit « D'ailleurs, il se joignait à cette tendresse, une certaine satisfaction de virilité ». Alors le pauvre Charles ne sait pas qu'Emma entend au contraire compenser le défaut de virilité de son mari par l'enfant à naître. Elle souhaitait un fils, il serait fort et brun, et elle l'appellerait Georges. Et cette idée d'avoir un enfant, d'avoir pour enfant un mâle, était comme la revanche en espoir de toutes ces impuissances passées. L'enfant est non seulement une projection imaginaire de ce que la mère aurait aimé être, en un mot libre, mais il incarne également un amant idéal. Là encore, les brouillons du passage confirment les sous-entendus du texte. En effet, Emma, qui ne connaissait que son mari, supposait à tous les autres hommes ce qu'il n'avait pas, c'est-à-dire une immense, pour le dire poliment, une immense faculté de passion, des énergies magnifiques. Donc au fils qui n'existera pas, est confiée la lourde tâche de racheter le manque de fougue paternelle. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les enfants imaginés pendant les grossesses, car Delphine Jaillot les a analysés la dernière fois avec précision, mais je vais simplement souligner que les bébés ne sont rêvés que comme des incarnations de l'amant ou de la maîtresse désirée par le parent. La petite fille que s'invente Frédéric est une micro Madame Arnoux, le bébé que projette avec volubilité Rosanette est un second Frédéric, alors elle bavarda beaucoup, ce serait un garçon bien sûr, on l'appellerait Frédéric. Les enfants à naître, duplication en réduction des enfants désirés par les parents, sont des créatures de rêves et de mots. Leur naissance ne peut donc provoquer qu'une frustration violente. Donc c'est notre transition vers la deuxième et dernière partie, les accouchements invisibles. Flaubert a l'art de figurer les accouchements sans les décrire frontalement. On s'intéresse pourtant de plus en plus en son temps à ce qu'on a longtemps nommé le mal joli. Et le gynécologue contemporain Fernand Leroy explique dans un ouvrage intitulé « Histoire de naître, de l'enfantement primitif à l'accouchement médicalisé » que, à partir du milieu du XIXe siècle, s'imposent les débuts d'une lutte efficace contre la douleur, premier soulagement des souffrances prescrites par la Bible qui provoque résistance et débat. La douleur de l'accouchement évolue et interroge. On en trouve trace en littérature, notamment chez les réalistes et les naturalistes qui prétendent, à l'instar de Zola, tout voir et tout peindre. Zola représente plusieurs accouchements de manière très précise. Le plus spectaculaire, je crois que c'est celui de Louise dans La Joie de vivre, qui frappe par sa crudité, n'épargnant en rien, je cite, de l'enfantement dans le sang et dans l'ordure, faisant craquer le ventre des mères, élargissant jusqu'à l'horreur cette fente rouge, pareille au coup de hache qui ouvre le tronc et laisse couler la vie des grands arbres. Madame Bovary fait au contraire l'ellipse de l'accouchement à proprement parler, se contentant d'un pudique « Elle accoucha un dimanche, vers 6 heures, au soleil levant ». Au lecteur donc d'imaginer la nuit de souffrance, mais un passage barré dans les brouillons faisait l'essai de sa description. Et au milieu de son agonie, quand elle entr'ouvrait les yeux, elle voyait comme des aiguilles, de grands rayons empourprés qui arrivaient jusqu'à elle. Donc, évocation de la douleur, du mal joli, et puis mention de grands rayons empourprés qui permettent peut-être de figurer par métonymie le sang de la parturiente. Mais si l'on ne voit rien du travail, on est également privé de la présentation de la nourrissonne par le fameux enchaînement qui était beaucoup commenté, qui suggère très artistement la déception d'Emma. « C'est une fille », dit Charles, « elle tourne à la tête et s'évanouit ». L'accouchement de Rosanette connaît également un processus d'effacement. Frédéric arrive en retard, et donc le lecteur aussi, après une soirée d'amour avec Madame d'Ambreuse, où il avait oublié l'éventualité de l'accouchement. Donc il arrive en retard dans la maison de santé de Madame Alessandri. Et c'est à cette sage-femme qu'est dévolu en discours rapporté le sommaire de l'accouchement, dissimulé sous une formule convenue. Elle apprit à Frédéric l'heureuse délivrance de la mère. Rosanette, récompensée de ses efforts par un enfant mâle, ne subit pas l'évanouissement d'Emma. La vue du bébé est, dans un premier temps, soustraite au regard du lecteur, de manière assez comique par un raccourci. Un garçon, là, en désignant près de son lit une Barcelonnette. Donc, par une singulière synecdoque, le nourrisson est un berceau. Porte-t-il bien le nom de son père? On ne le saura pas. C'est que Flaubert procède à un singulier effacement des nourrissons. Il fait l'objet de ma seconde partie. Donc, faire disparaître le nourrisson. On a tenté de montrer comment Flaubert reprenait les représentations traditionnelles de la grossesse pour mieux les saper. Entre invisibilisation paradoxale et constante tension grotesque pathétique, alors comment décrit-il ou pas le nourrisson? On va voir ici comment Flaubert transforme le tout petit en être qui se vit essentiellement sur le mode de la négativité. Donc d'abord, nouveau-né et dépossession, double dépossession. La naissance de l'enfant apparaît très vite comme une expérience de la dépossession. Dans l'éducation sentimentale, les premiers moments du bébé de Frédéric sont présentés sur le mode de la privation. C'est le point de vue de Frédéric qui lui refuse tout avenir, cherchant à le nier sur un mode hypothétique. L'illégalité de sa naissance l'opprimerait toujours, mieux aurait valu pour lui ne pas naître. L'usage du conditionnel passé première forme, mieux aurait valu, implique une hypothèse irréelle du passé, pas d'avenir pour ce petit être pour lequel son père fait un vœu de disparition que le narrateur va se charger d'accomplir. La dépossession et davantage celle de la mère dans Madame Bovary. Le bébé est très vite accaparé par une multitude de personnes extérieures, de plus en plus lointaines. Emma, dans un état de détresse qu'on assimilerait peut-être aujourd'hui à une forme de baby blues, voit son enfant passer de bras en bras. Presque aussitôt, Madame Homais accourut et l'embrassa, ainsi que la mère Lefrançois de Lyon d'Or, puis vient le tour d'Homais, désigné de manière distante par le pharmacien. On trouve dans les brouillons un passage supprimé qui confirme cette impression de dépossession de l'enfant dès l'après-accouchement. Lorsqu'elle revint à elle-même, elle aperçut auprès du feu sur une chaise basse quelqu'un d'assis qui ressemblait à sa belle-mère. Donc on note le verbe d'état qui induit qu'Emma ne sait pas avec précision qui s'occupe de son enfant, une sorte d'état de dissociation. Alors elle resta bouche béante et poussant des soupirs de fatigue à regarder les mains maigres de la vieille femme qui lavait, donc verbe au pluriel, le nouveau-né et le retournait dans des linges. On remarque que le sujet du verbe laver, ce n'est pas la vieille femme mais ses mains maigres avec un procédé de zoom qui déshumanise le soin à l'enfant. L'enfant n'existe d'ailleurs pas vraiment en propre. Flaubert est ici tributaire de l'imaginaire de son temps, qui met bien sûr à distance par ailleurs, imaginaire qui n'attribue pas encore, bien entendu, au nouveau-né le statut de sujet plein. Flaubert a beaucoup consulté le traité clinique et pratique des maladies des enfants, publié au milieu du siècle par Barthès et Rillet. Ces médecins, dont l'ouvrage propose des avancées significatives pour la pédiatrie future, dressent dans l'introduction ce portrait du nouveau-né. Sa figure est calme, mais sans expression. Son œil ouvert, mais terne et comme inanimé, regarde sans voir. Son sommeil est presque continu. Les fonctions de relation n'existent pas. La vie est toute végétative. Les bébés flaubertiens correspondent à ce tableau et ils existent presque uniquement dans les mots des adultes. Et cela imparfaitement. La nomination de Berthe est à ce titre significative, pose un problème significatif. Si Emma projette ses rêves romanesques dans le prénom de sa petite fille, Atala, Galsuinde, Léocadie, Charles souhaite souligner la transmission de la lignée Bovary en lui donnant le nom de sa mère. Et autour du berceau, le couple parental bataille. Le choix du nom se réalise finalement sous le signe de l'indéfini. On, donc qui donc on, hein, pronom personnel indéfini, ont parcouru le calendrier d'un bout à l'autre et l'on consulta les étrangers. Donc encore de l'indéfini pluriel. Tout le monde donne son avis dans le texte. Enfin, Emma se souvint qu'au château de la Vaubyessard, elle avait entendu la marquise appeler Berthe une jeune femme, hein, encore un article indéfini, on donne à Berthe le nom d'une inconnue. Dès lors, ce nom-là fut choisi, et comme le père Rouault ne pouvait venir, on pria Monsieur Homais d'être parrain, donc un second choix. Le baptême de l'enfant, au champagne par le père Bovary, tourne au vinaigre, envahi donc par les chamailleries entre le curé et ceux qui se veulent libres penseurs. Et si les premiers jours de vie de la petite Berthe sont placés sous le signe du négatif, de l'indéfini, un autre nouveau-né flaubertien connaît le sort inverse. C'est le futur Saint-Julien, nourrissant de premier plan, vraiment choyé chez Flaubert, qui s'éveille, lui, dans le trot. Son banquet de baptême offre l'inverse symétrique de celui de Berthe, même si les convives s'effacent aussi sous l'impersonnel. Alors il y eut de grandes réjouissances et un repas qui dura 3 jours et 4 nuits, dans l'illumination des flambeaux, au son des harpes, sur des jonchées de feuillage. On y mangea les plus rares épices, avec des poules grosses comme des moutons. Par divertissement, un nain sorti d'un pâté, et les écuelles ne suffisant plus car la foule augmentait toujours, on fut obligé de boire dans les olifants et dans les casques. Alors il n'est pas fait mention de l'enfant qui vient de naître ici, il semble étouffé sous l'abondance, ne surgissant peut-être, enfin je me plais à le voir, dans la possible allusion burlesque à l'accouchement, dans cet étrange divertissement, un nain sorti d'un pâté. Donc drôle de naissance pour un élu du Seigneur, si c'est bien le cas. Il faut s'éloigner du banquet pour retrouver la sacralité prédite par le titre et la divine conception qu'on a évoquée plus haut. Un ermite surgit dans la chambre de la jeune mère pour lui livrer une sorte d'annonciation postpartum. Réjouis-toi, ô mère, ton fils sera un saint. L'intervention surnaturelle permet de combler les espérances parentales sur un mode genré. Au père, un autre mystérieux envoyé annonce un chef militaire comblé de pouvoir. Ah, ton fils, beaucoup de sang, beaucoup de gloire, toujours heureux, la famille d'un empereur. Les heureux parents d'un enfant à même de concrétiser leurs plus fabuleuses attentes peuvent former le tableau d'une sainte famille. Flaubert s'inspire ici des représentations picturales de l'art sacra médiéval. Tous deux chérissaient l'enfant d'un pareil amour et le respectant comme marqué de Dieu, ils eurent pour sa personne des égards infinis. Sa couchette était rembourrée du plus fin duvet, une lampe en forme de colombe brûlait dessus continuellement, 3 nourrices le berçaient, et bien serrée dans ses langes, la mine rose, les yeux bleus, avec son manteau de brocart et son béguin chargé de perles, il ressemblait à un petit Jésus. Les dents lui poussèrent sans qu'il pleurât une seule fois. Donc Flaubert représente ici un divin enfant et les allusions sont de plus en plus claires à mesure que progresse le texte. D'abord donc la lampe en forme de colombe qui est un double signe qui rappelle à la fois l'huile de la lampe qui répand la lumière divine et puis la colombe du Saint-Esprit qui apparaît lors du baptême du Christ. Mais ce bébé ne connaît pas l'humble naissance du Fils de Dieu au lieu de la paille de l'étable, une couchette de fenduvet, à la place de l'âne gris et du bœuf, trois nourrices pour le bercer, à moins que ce ne soit des rois mages en jupon. Le manteau de brocart et le béguin chargé de perles rappellent clairement le petit Jésus de l'iconographie médiévale, décrit par Marie-France Morel dans son article « Le corps du bébé dans l'histoire » comme paré de tous les attributs de la majesté divine, trône, globe, sceptre, et ainsi identifié à la sagesse de Dieu. Le texte explicite d'ailleurs finalement l'image à la fin de la description. Il ressemblait à un petit Jésus. Mais le verbe « ressemblait à » introduit justement une forme de distance. Et l'effet de contraste qui produit le comique est saisissant dans la phrase suivante. Les dents lui poussèrent sans qu'il pleurât une seule fois. Donc voilà un miracle de poupon baigneur plutôt que d'enfant roi qui resplendit. Un autre nourrisson flaubertien est ainsi adoré. Il s'agit d'Harpocrate, l'enfant d'Isis, qui reconnaît dans son fils l'empreinte divine de l'ombre de son père Osiris. C'est lui. Ce sont ses yeux, ce sont ses cheveux tressés en cornes de bélier. Tu recommenceras ses œuvres, nous refleurirons comme des lotus, mon fruit et le soleil. La ponctuation émotive, l'usage du futur simple à nuance de certitude marque l'enthousiasme maternel, mais Isis a beau être une déesse, elle ignore que son enfant est prêt de mourir. Rosanette, qui va subir le même sort, reprend ce même stéréotype de la mère amoureuse qui voit dans son nourrisson un double de son amant. Elle gratifie Frédéric d'un « comme il te ressemble » très malvenu, puisque du point de vue paternel, la progéniture ne ressemble à rien. Il écarta les rideaux et aperçut au milieu des linges quelque chose, donc on note la réification, quelque chose d'un rouge jaunâtre extrêmement ridé qui sentait mauvais et qui vagissait. On a une multiplication des expansions du nom péjorative et tous les sens, la vue, l'odorat et l'ouïe de Frédéric sont agressés par la chose. Quant au toucher, Frédéric préfère y renoncer. La description du nouveau-né comme d'un objet indéfini et déroutant n'est pas propre à Flaubert. Michelet parle d'une petite masse sanglante, le narrateur de Monsieur, Madame et Bébé de Drose rapporte également au premier chapitre Mon nouveau-né, une surprise, c'est pas le premier chapitre, c'est le premier chapitre de la partie sur la famille, donc mon premier-né, donc la surprise vis-à-vis de cette minuscule créature qui ne correspond pas aux images roses et potelées. Je ne me l'étais pas encore figuré inanimé, presque sans vie, tout petit, ridé, déplumé, grimaçant, et charmant, aimé malgré tout, adorable. Donc là, si l'apodose est en accord avec le point de vue de Frédéric, la protase ramène la description d'une tendresse beaucoup plus conforme aux représentations du baby qui se répandent de plus en plus au cours du 19e. Frédéric, lui, au contraire, reste retenu par une indéfectible répugnance, c'est le terme du texte. Les nouveaux-nés flaubertiens sont donc construits sur le mode de la duplication, de l'indéfini ou de la négativité. Très vite, le texte organise leur relégation dans un univers hors de son cadre principal, les faisant disparaître chez une nourrice. Donc, l'envoi des nourrissons chez les nourrices, pratique à l'origine aristocratique, se répand au cours du 19e siècle de manière massive, malgré la forte mortalité infantile accrue par cette pratique. Les médecins du temps parlent d'une mortalité des bébés en nourrice de 80%. Les discours normatifs de ce temps s'insurgent contre cet usage, c'est peut-être que le chiffre est gonflé. L'article « Nourrice » du Grand Larousse du 19e siècle débute ainsi « Femme qui allaite un enfant » Une femme devrait toujours être la nourrice de son enfant. Alors suit un très long développement prescriptif sur la question qui s'achève par « quand on aura bien persuadé aux mères de famille que l'allaitement étranger est presque équivalent à l'abandon des enfants sur la voie publique, on aura fait un grand pas vers la solution du problème de la mortalité infantile ». Donc, on a encore, hein, de nos jours, ce discours sur la mère qui ne choisit pas d'allaiter, qui serait une mère indigne. Flaubert ne manque pas de s'emparer de ce discours injonctif. Le traitement indigne des nourrissons et les méthodes arriérées des nourrices figurent parmi les idées reçues de Bouvard et Pécuchet, bien sûr, eux-mêmes piètres éducateurs. Ils en vinrent à inspecter les nourrices et s'indignaient contre le régime de leurs poupons. Les unes les abreuvent de gruau, ce qui les fait périr de faiblesse, d'autres les bourrent de viande avant 6 mois et ils crèvent d'indigestion, plusieurs les nettoient de leur propre salive, toutes les manient brutalement. Donc ces idées reçues ne manquent pas de fondement réel. Le traitement de la petite Berthe dans Madame Bovary semble confirmer les allégations péremptoires de Bouvard et Pécuchet. Juste avant l'épisode de la visite à la mère Rollet, sur lequel nous allons nous pencher, les Brouillon avaient prévu d'attribuer la décision de la mise en nourrice à Emma. Charles n'avait rien objecté à cette décision d'Emma, pensant qu'elle ne se trouvait pas sans doute la force de nourrir. Donc le lecteur qui a eu accès à la détresse d'Emma après son accouchement voit peut-être une autre explication, mais en faisant ses courses de temps à autre, il allait voir la petite. Soir et matin d'ailleurs, on l'amenait à sa maman. Ça, c'est le point de vue de Charles, hein, probablement, qui utilise le terme tendre de sa maman. La version définitive du texte recourt à une tournure passive, dépourvue de complément d'agent. Sa petite fille, qui avait été mise en nourrice, il ne nous dit pas que c'est par elle, la relative en apposition avec son statut périphérique efface la décision d'Emma, probablement trop scandaleuse pour être énoncée explicitement. L'épisode de la visite chez la nourrice reprend les topoi misérabilistes associés à ce qui est souvent perçu comme un refus coupable de la maternité, mis à distance par Flaubert. Au bruit de la barrière, la nourrice parut, tenant sur son bras un enfant qui tétait. Donc l'accessoire classique de la nourrice. Elle tirait, donc un verbe brutal, hein, de l'autre main, un pauvre marmot chétif, couvert de scrofules au visage. Donc les médecins de l'époque notent que les bébés en nourrice présentent souvent des infections dermatologiques chroniques, qui seraient le signe d'un défaut de nourriture et de soins. Le fils d'un bonnetier de Rouen, que ses parents trop occupés de leur négoce, laissaient à la campagne. Donc une pratique de la petite bourgeoisie qui prétend s'élever sans s'encombrer d'enfants. La chambre au rez-de-chaussée, la seule du logis, avait au fond, donc on imagine, hein, la promiscuité et toutes ces conséquences, avait au fond, contre la muraille, un large lit sans rideau. Donc on a à la fois cette idée de promiscuité obscène et puis l'isotopie de la privation, du dénuement. Tandis que le pétrin, donc là bien sûr le terme de pétrin n'est pas choisi au hasard puisque c'est l'appareil pour pétrir l'appart, mais c'est déjà aussi à l'époque de Flaubert, hein, d'après le Larousse, le grand Larousse du 19e, un endroit de travail pénible, difficile, un état d'embarras, de malaise. Donc la nourrice et ses nourrissons vivent littéralement dans le pétrin. Donc le pétrin occupait le côté de la fenêtre, dont une vitre était raccommodée avec un soleil de papier bleu, donc ironie dérisoire de ce soleil sans lumière dans la misère. L'enfant d'Emma dormait à terre, donc une pratique désignée comme dangereuse, on a peur des bêtes notamment, c'est un signe de négligence, dans un berceau d'osier. Elle l'a pris avec la couverture qui l'enveloppait et se mit à chanter doucement en se dandinant. Donc on note le complément de manière en se dandinant et non pas en la berçant. Emma accomplit dans les lignes qui suivent une performance de la maternité, hein, vraiment performance qui ne relève pas d'une relation à son bébé, mais plutôt d'un jeu de théâtre destiné au public de choix que constitue le naïf Léon. Lorsque la nourrissonne vomit, salissant la robe de nankin de sa mère, Emma doit interrompre ce rôle qui était visiblement une manœuvre de séduction. Madame Bovary devint rouge. Léon se détourna, croyant que ses yeux peut-être avaient eu quelque impertinence, donc lui il est pris dans la scène érotique, puis elle recoucha la petite qui venait de vomir sur sa collerette. La nourrice vint aussitôt l'essuyer, protestant qu'il n'y paraîtrait pas. On est proche ici du burlesque, hein, avec le sujet traditionnellement noble, voire sacré, de la mère à l'enfant qui est ramenée à travers le verbe vomir au bas corporel. La scène est déromantisée. Et le bébé fait obstacle à la mythification de la mère aux yeux de son amant. La scène achève de sombrer dans le trivial lorsque la nourrice poursuit Emma pour exiger du savon, du café, un cruchon d'eau de vie soi-disant pour frotter les pieds de votre petite qui les a tendres comme la langue. Donc, seule mention de tendresse dans ce passage qui s'applique à des pieds. Les objets du soin sont clairement détournés pour l'usage personnel de la nourrice. Emma accepte d'acheter ces objets et par même occasion d'acheter la nourrice. Elle expédie sa visite au profit d'une promenade avec Léon, beaucoup plus excitante. Et on la comprend, hein, puisque le lecteur, comme elle, est soulagé de s'extraire du pétrin de la nourrice. La visite chez la nourrice de l'éducation sentimentale forme un diptyque antithétique avec celle de Madame Bovary. Le cadre est rapidement tiré du côté du bucolique à travers le point de vue de la mère parisienne. La visite hebdomadaire à Andilly constitue une échappée dans ce que Rosanette voit comme un vert paradis de l'enfance. Sa difficulté à s'en extraire, qui est l'inverse de la hâte d'Emma, dit assez son plaisir à s'attarder près du nourrisson, ou plutôt près de la nourrice. Donc, autre différence avec la visite chez la mère Rollet, dans l'éducation sentimentale, c'est l'homme qui est exclu du trio. Les bonnes femmes semblent communier autour du berceau. À première vue, pourtant, les deux univers des nourrices se ressemblent beaucoup. La maison de la nourrice se trouvait sur la hauteur du village, au fond d'une petite cour, sombre comme un puits, avec de la paille par terre, des poules ça et là, une charrette à légumes sous le hangar. Donc on a encore le thème de la pauvreté, mais progressivement on va migrer vers le cliché rustique. Rosanette commençait par baiser frénétiquement son poupon, donc il y a un contraste entre le verbe et le complément de manière, un baiser frénétiquement qui connote bien sûr la fièvre du désir et puis l'objet. Contraste qu'on retrouve hein, chez la nana de Zola, elle aussi courtisane en mal de pureté, qui éprouve une semblable crise d'amour maternel, ça c'est l'expression zolienne, lorsqu'elle va rendre visite à son petit Louiset en nourrice. Donc, et Rosanette, prise d'une sorte de délire, allait et venait, essayait de traire la chèvre, mangeait du gros pain, aspirait l'odeur du fumier, voulait en mettre un peu dans son mouchoir. Donc là, évidemment, un passage risible. Ironie, Rosanette ne constitue pas non plus un modèle. Le bébé semble participer ici d'un jeu du retour à la terre autour du stéréotype de l'authenticité qui va jusqu'au fumier. Dans novembre, Flaubert met déjà en scène le rêve de Marie, elle aussi courtisane au cœur pur, qui cherche dans la maison de sa nourrice, elle aussi donc, un refuge d'innocence. « Ah, je veux m'en aller d'ici. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Je retournerai à pied au pays. J'irai chez ma nourrice. C'est une brave femme qui me recevra bien. Quand j'étais toute petite, j'allais chez elle et elle me donnait du lait. Je l'aiderai à élever ses enfants et à faire le ménage. J'irai ramasser le bois mort dans la forêt. Nous nous chaufferons le soir au coin du feu quand il neigera. Voilà bientôt l'hiver. Au roi, nous tirerons le gâteau. Oh, elle m'aimera bien. Je bercerai les petits. » Donc là, la parataxe laisse supposer donc que c'est elle qui a besoin d'être bercée. « Je bercerai les petits pour les endormir, comme je serai heureuse. » Les nourrissons apparaissent ici comme un élément parmi d'autres d'un décor régressif. Et le soin aux nourrissons s'inscrit dans le mythe d'un univers intact, frais et candide comme du lait. Il est d'abord un rôle tendre à jouer, des gestes à faire pour performer la douceur et puis pour la faire advenir d'abord peut-être pour soi. Donc, l'amour maternel, manière et discours. L'amour maternel est, à l'époque de Flaubert, un poncif particulièrement tenace. Comme vous le savez, son intense valorisation est encore récente. Les Lumières, et particulièrement Rousseau, ont exalté la figure de la mère tendre, proche de la nature, qui allaite son bébé. Au XIXe siècle, cette mythification de la maternité s'accentue, la mère est le pilier de la famille bourgeoise et les techniques de limitation des naissances de plus en plus efficaces, couplées à la baisse de la mortalité infantile, favorisent l'émergence d'un modèle familial où les enfants, en nombre plus restreint, sont choyés davantage par une mère idéalement au foyer. Dans Béatrix de Balzac, Félicité des Touches, alias Camille Maupin, qui, dans l'adage latin « aut liberi, aut libri », donc ou bien des enfants ou bien des livres, a choisi les livres contre les enfants, montre que son temps a conscience déjà de la récupération sur un mode injonctif des théories rousseauistes de la maternité. Elle nous dit « un des grands bénéfices de la société moderne et dont nous avons été privés par cet hypocrite de Jean-Jacques était de nous laisser libres d'être ou de ne pas être mère ». Flaubert va encore plus loin que Balzac, je crois. Plus audacieux que le choix déjà inadmissible de ne pas être mère, il montre ce qu'on appellerait aujourd'hui le regret maternel. La relation d'Emma à sa petite Berthe jette la lumière sur une possible difficulté à s'attacher à l'enfant. Flaubert déshabille la mère peinte 3 ans plus tard par Michelet. On est à 1000 lieues du lyrisme de la femme qui reflète tout un imaginaire d'époque de l'amour à la fois instinctif et sacré pour le nouveau-né. Le divin ravissement du premier regard maternel, l'extase de la jeune mère, son innocente surprise d'avoir enfanté un dieu, sa religieuse émotion devant ce merveilleux rêve qui est si réel pourtant, c'est ce qu'on voit tous les jours. Flaubert met à mal ce topos littéraire qui s'impose de plus en plus au cours du siècle. Il détricote l'emphatique exaltation du baby, élevé au rang de morceau de bravoure par René dans les mémoires de deux jeunes mariés, 16 ans avant sa Bovary. « Je suis heureuse et plus heureuse que tu ne l'imagineras jamais. Dieu sait avec quelle infatigable ardeur on pouponne, on habille, on brosse, on lave, on change, on baise ses petites fleurs. Donc mon singe n'est plus un singe, mais un baby, etc. » je ne le quitte guère et m'efforce de le pénétrer de mon âme. Ce que je sens, hélas, il me semble que toutes les mères l'ont éprouvé avant moi, doivent l'exprimer de la même manière. Donc, loin de la généralisation finale de René, on est au contraire dans Madame Bovary face à une manière de Flaubert dentaire, hein, puisque Flaubert a la hardiesse très grande de sous-entendre que l'amour maternel peut ne pas être instinctif, naturel. C'est 120 ans plus tard qu'Elisabeth Badinter fera scandale avec son ouvrage « L'amour en plus » émettant l'hypothèse que l'instinct maternel ne fait pas partie de la nature féminine. Flaubert opérait déjà avec toute la complexité et l'ambiguïté qui font son immense richesse, ce que Lucette Xiba désigne dans La femme dans les romans de Flaubert comme une mise à distance des mythes et une réflexion critique sur ce qu'ils occultent et révèlent à la fois. Donc la démonstration d'amour d'Emma vis-à-vis de Berthe, âgée de 9 mois, est caractéristique de cela. Hein. Elle est d'abord langage et geste. Ses discours, ses manières, tout changea. On la vit prendre à cœur son ménage, retourner à l'église régulièrement et tenir sa servante avec plus de sévérité. Elle retira Berthe de nourrice, Félicité l'amenait quand il venait des visites, et Madame Bovary la déshabillait afin de faire voir ses membres. Elle déclarait adorer les enfants, c'était sa consolation, sa joie, sa folie, et elle accompagnait ses caresses d'expansion lyrique qui, à d'autres qu'à des Yonvillais, eussent rappelé la sachette de Notre-Dame de Paris. Ce jeu de rôle repose sur une construction livresque, il est avant tout une fiction, et Flaubert déconstruit l'idée reçue de l'amour inné envers les nourrissons, alors qu'il serait de bon ton de prôner le croiser et multiplier, en dénigrant haut et fort, comme dans le dictionnaire des idées reçues, l'infâme Malthus. Et le texte flaubertien ne limite pas les naissances, il supprime plusieurs bébés, se livrant dans le récit à une forme de massacre des innocents, qui est notre tout dernier point, très bref. Le nourrisson, donc un être voué à la disparition. À plusieurs reprises, Flaubert fait disparaître les nourrissons qu'il a conçus pour le récit. Ils disparaissent d'abord momentanément dans la diégèse. Berthe n'y apparaît qu'épisodiquement. Quant au bébé de Rosanette, il est soustrait au regard du lecteur entre la visite chez la nourrice et sa mort, comme s'il ne naissait que pour mourir. Selon Pierre-Marc de Biasi, l'enfant mourrait vers octobre 51. Il ne serait plus à proprement parler un nourrisson. Et je ne vais pas m'attarder sur l'épisode de sa mort que Delphine Jaillot a commenté lors de la précédente séance. Je vais juste me contenter de ce bref extrait où le petit sans nom est présenté encore une fois sur le mode de la négation à travers le point de vue de son père. Frédéric fut effrayé par l'aspect débile de l'enfant et le progrès de ses taches blanchâtres, pareilles à de la moisissure, comme si la vie, abandonnant déjà ce pauvre petit corps, n'eût laissé qu'une matière, donc tournure restrictive, n'eût laissé qu'une matière où la végétation poussait, donc le bébé ramené au non-humain. Ses mains étaient froides, il ne pouvait plus boire maintenant. Donc encore la tournure ne plus un bébé sur le mode de la privation. En effet, il était mort. Rosanette le prit, le secoua, l'étreignait en l'appelant des noms les plus doux, le couvrait de baisers et de sanglots, tournait sur elle-même, éperdue, s'arrachait les cheveux, poussait des cris. La scène, qui se déroule dans un cadre réaliste, est très proche de la mort d'Harpocrate qui transpose au bord du Nil l'universel thème de la mort des tout-petits. Isis secoue son enfant, donc comme Rosanette, hein, c'est le même verbe. « Mais qu'as-tu ? Tes mains sont froides. » Là aussi, même mention que pour le bébé de Rosanette. « Ta tête retombe. Harpocrate vient de mourir. » Là encore, laconisme et brutalité de la formule. Alors, elle pousse dans l'air un cri tellement aigu, funèbre et déchirant, qu'Antoine y répond par un autre cri, en ouvrant ses bras pour la soutenir. La violente douleur d'Isis rejoint la détresse de Rosanette. L'attachement maternel au nourrisson semble perceptible, surtout lorsque l'enfant meurt. Alors c'est peut-être parce qu'on éprouve on n'éprouve jamais autant la force d'un amour qu'au moment où on le perd, mais c'est aussi probablement parce que l'amour blessé pour l'enfant disparu est élevé par une sacralité dans la douleur que n'a pas toujours l'affection pour le petit être, le petit poupard vivant qui vagit et qui vomit dans ses langes. Alors, pour conclure, Flaubert reprend l'image très répandue en son temps de la grossesse cachée et envoie les nourrissons en nourrice dans un lieu à première vue à part de l'intrigue. Il s'empare dans le même temps de la représentation du culte bourgeois de la famille et de son exaltation de la mère au foyer qui soigne son bébé avec lyrisme et économie, mettant en lumière les paradoxes engendrés par la bêtise des donneurs de leçons positifs et autres marchands d'idéal. Il ose écorner la mythification de l'amour maternel et pointe même la possible souffrance psychologique du postpartum autour de laquelle la parole des mères n'est pas encore tout à fait libérée de nos jours. Quant aux nourrissons, souvent niés par la diégèse, il trouve son plein potentiel narratif au moment tragique où il la quitte en se mourant. Si nous avons été frappés, enfin moi en tout cas, par la modernité et la finesse extrême avec lesquelles Flaubert s'empare des idées reçues de son temps et encore pour grande partie de notre temps autour de la maternité, les évolutions de l'obstétrique et de la puériculture vont introduire en littérature de nouveaux motifs. Il y a le développement de la sepsie et de l'analgésie qui vont modifier le vécu de l'accouchement et puis le contrôle croissant des naissances avec une contraception de plus en plus efficace et le recours à l'avortement qui vont peut-être réduire, tout cela va réduire peut-être un peu l'angoisse de la grossesse. Le ventre rond est de plus en plus représenté, de plus en plus célébré. Après la défaite de 70, le natalisme s'accentue encore. Les médecins prennent le pouvoir sur les naissances et sur les nouveau-nés et instaurent, à partir des années 90, donc ça, Marie-France Morel l'explique très bien, une puériculture d'inspiration pastorienne. Alors, je regrette vraiment que Beauvoir et Pécuchet n'aient pas connu des manuels de stérilisation des biberons. Et puis enfin, un changement de paradigme psychologique très important se joue dans la seconde moitié du XXe siècle, puisque le bébé est progressivement conçu comme un sujet, une personne, pour reprendre l'expression de Françoise Dolto. La littérature du XIXe siècle ouvrait déjà des pistes à cette individuation du nourrisson. Choisissons pour finir les vers d'une femme qui a vécu la grossesse dans son corps. Il s'agit du recueil « Les enfants et les mères » de Marceline Desbordes-Valmore donc un extrait dédié à son bébé Hippolyte. « Bienvenue mon enfant, mon jeune, mon doux hôte, depuis une heure au monde. Oh que je t'attendais, que j'achetais ta vie. Hélas, est-ce ta faute ? Oh non, ce n'est pas toi qu'en pleurant je grondais. Adieu, je ne suis plus l'heureuse chrysalide où l'âme de mon âme a palpité 9 mois. Mais à ta frêle fleur, si j'ai servi d'égide, homme un jour, reviens-y, t'appuyer quelquefois. » Merci beaucoup de votre attention.